commencé à préparer cette conférence, ce colloque il y a maintenant 18 mois. Et j'ai demandé à mes amis communs de m'aider. J'ai dit, j'ai besoin d'un bon conférencier. Et ils ont pensé. Et voilà, on est arrivé sur le docteur Cyprien Spezza. Je dois dire une chose pour les laïcs. J'ai entendu plusieurs fois Père Cyprien, Père Cyprien. Mais et c'est très, très important que de plus en plus dans notre faculté théologique, ce n'est pas une réserve ni de prêtres ni de futurs prêtres. Et nous sommes très très heureux de vous avoir parmi nous. Et nous allons écouter avec grand intérêt votre conférence. Merci.
Merci pour m'avoir invité à ce colloque. Premièrement, je veux demander de m'excuser parce que ma langue française est un péché de ma jeunesse. Je l'ai appris, je l'ai oublié. J'ai pas eu l'occasion de parler la langue française. Maintenant, après beaucoup d'années, je viens de faire cette conférence. Le père Patrice m'a demandé de faire quelque chose sur la Sainte Liturgie. Je travaille à la faculté de théologie du Sibiu en Transylvanie. Vous savez, Transylvanie, mais Dracula, c'est le mot-clé qu'on m'a demandé d'où est-ce que tu es. Je suis de patrie du Dracula, ça c'est. On m'a demandé de dire quelque chose sur la liturgie. Et je disais, c'est tout à fait très compliqué de parler de Dieu, de parler de l'Église, de parler de la liturgie. C'est tout à fait très compliqué. Et je pensais de présenter une approche orthodoxe sur la liturgie. J'espère que la terminologie orthodoxe n'est tellement difficile. Je veux essayer de parler avec les mots plus simples et plus simples que je peux. Parce qu'avec mes étudiants, nous essayons de lire les Pères de l'Église toujours en mettre en pratique ce que nous lisons. C'est toujours une importance pratique de la théologie. Moi-même, je ne crois pas que les pères de l'Église ont fait théologie pour acquérir des diplômes et comme ça. En fait, ils ont fait théologie parce qu'ils ont une raison très précise. Et comme ça, je veux présenter le point de vue sur la liturgie qui est toujours un point de vue très pratique. Et j'ai un premier chapitre sur la liturgie, sur la terminologie. On parle beaucoup sur la liturgie, mais vous voyez voir que le terme de la liturgie est un terme très très complexe. Maintenant, après, j'ai un chapitre sur la histoire de la liturgie, mais je pense que je veux le couper parce que c'est très grand et aussi je pense que vous savez beaucoup de choses. Je n'apporte pas rien de nouveau. J'ai travaillé 10 années sur la liturgie de Saint-Basile et j'ai essayé de montrer qu'il appartient, le texte de la liturgie de l'anaphore, il appartient à Saint Basile. Au troisième chapitre, je propose de voir la liturgie comme une rencontre. C'est une rencontre, et cette rencontre a quelques modalités. Comme on peut rencontrer le Christ dans la liturgie? Par sa parole, par l'homilie, par la communion eucharistique, et après par la communion spirituelle. On parle de l'ascèse, on parle de vertus, des commandements comme ça. Après, je veux finir avec la communion pour la vie éternelle. Je veux dire que la communion que nous avons avec le Christ maintenant, de notre jour, c'est seulement un avant-goût de la communion éternelle que nous verrons dans le futur. Et je veux finir avec des considérations sur le mot liturgie après la liturgie. Et je veux démontrer que c'est une seule liturgie, il n'y a pas une liturgie après la liturgie, c'est une seule liturgie dans toute notre vie. en montrant que cette complexité de vivre le Christ, c'est la diversité dans l'unité. Il est un Christ, il est une vie en Christ, mais c'est tellement complexe et profond que nous les Européens, nous le faisons très simple, mais c'est pas comme ça. Si je ne sais pas combien de temps j'ai presque 20 pages, mais je veux essayer de faire quelque chose d'intéressant et aussi j'attends la question si quelque chose ne va pas très bien. Alors, sur le thème de la liturgie, vous savez, tout le monde qui savent la grecque ancienne, c'est le terme liturgia qui signifie le service commun du peuple, vient de deux mots. C'est le ergon, c'est l'acte, le travail, l'ouvrage, l'occupation, et le leithos et léos, un dialecte de laos. C'est-à-dire, liturgein signifie faire quelque chose pour le peuple. Faire quelque chose pour le peuple, ou le peuple faire quelque chose pour l'État et pour Dieu. Dans ce sens-là, on utilise souvent ce terme de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous pouvez chercher ça, il y a beaucoup de dictionnaires qui expliquent ce terme. Mais je veux dire que du commencement, la liturgie est arrivée à définir dans le christianisme primitif, d'une manière générique, tous les actes liturgiques par lesquels on exprimait la gratitude, la reconnaissance du peuple envers Dieu. Ça, c'est tout à fait tout simple. La théologie liturgique moderne. Vous savez, il y a un débat très grand entre les théologiens du XXe et XVIIIe siècle et les modernes. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la théologie liturgique? Qu'est-ce que veut dire la liturgie? Je dis deux ou trois choses. C'est la divine liturgie, c'est le service ou l'office saint pendant lequel on fait, on offre l'oblation de Nouvelle Alliance. C'est le père Branichte, c'est le plus grand liturgiste romain, qui a dit, un locus theologicus par excellence, c'est le père Schmemann qui a dit ça, c'est la manifestation de l'Église telle qu'elle est en réalité, la participation réelle aux événements de la vie du Fils de Dieu crucifié, présence de ces modes du royaume du ciel. On a essayé de définir la liturgie comme un mystère de la présence de Dieu parmi les hommes, comme une théophanie unique et complète, comme le ciel sur la terre, comme la joie de la création par rapport au Créateur, la transfiguration du cosmos entier envers l'homme, une avant-goût de la vie à venir, et la prière par excellence de l'Église, qui juxtapose dans une seule image le présent, le passé et l'avenir, le visible avec l'invisible, mettant en lumière d'une manière unique la diversité harmonieuse du plan divin de l'unification de l'homme. Ils sont des définitions qui, quelquefois, on pense que ce sont seulement des mots, personne ne comprend pas. Mais je veux dire que pour la tradition patristique, la liturgie, c'est quelque chose de plus profond. Les pères des églises, toujours, ils ont dit que la liturgie, c'est comme un iceberg. Vous savez, on voit seulement une petite part, mais la plus grande part, on ne voit pas. Et pour ça, ils ont défini la liturgie comme la vie d'amour éternel entre les personnes de la Sainte Trinité. Ça, c'est très important. L'amour entre les trois personnes de la Sainte Trinité a été défini par le Père de l'Église comme liturgie. Le Père Stanilois, il dit très, très, très beau, il dit l'amour entre les personnes divines et la liturgie à laquelle les croyants participent par les actes visibles. Il est la souffle de la vie qu'il a créé le monde et qu'il refait et le rebâtit comme Église en le préparant pour le mystère de la vie à venir. Le Père de l'Église considère que l'origine du monde est au fondement de l'existence de toute chose. C'est cet amour près du sacrifice généreux et désintéressé de la Sainte Trinité qu'il a voulu inculquer et communiquer à tous les êtres rationnels. Celui-ci, c'est la liturgie perpétuelle et éternelle pour laquelle l'homme a été créé, et goûtant de cette communion, l'homme devait unir autour de lui le cosmos entier, devenant le médiateur entre le créé et l'incréé, l'intelligible et sensible, entre le ciel et la terre, entre le paradis et ce monde, enfin entre l'homme et la femme. Vous reconnaissez ici, c'est Saint-Maxime le Confesseur qui l'a dit. Et dans ce point-là, je veux remercier Père Sorine qui m'a ouvert toute cette perspective de Saint-Maxime le Confesseur pour entendre que la liturgie, c'est beaucoup plus que nous voyons, que nous vivons. La chute dans le péché a amené un détournement de l'homme de cette mission synthétisatrice et la privation de la liturgie céleste. L'entrée dans la joie de la communion avec Dieu s'est faite par l'incarnation et par le sacrifice et résurrection de notre Seigneur, qui a amené sur la terre toutes les richesses célestes, toute la vérité divine, toute la joie du paradis perdue à cause de la désobéissance. Seul un sacrifice peut ramener l'homme dans la communion d'amour de Sainte Trinité, et pour cela, le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme, et en mourant sur les croix, il est devenu le prêtre éternel, l'oblation perpétuelle, l'autel suprême et éternel. Il est entré dans le temps céleste en s'offrant lui-même à son Père comme oblation pure et agréable, et reste pour toujours officiant une liturgie sans fin. Ici, c'est le Père Stanislaus qui a montré ça, que les Pères des Églises, et surtout Saint Cyrille d'Alexandrie, souligne ce fait que dans notre jour, pour accéder au Père et pour goûter de nouveau l'amour de la Sainte Trinité, il faut avoir un état d'offrande, d'être obéissant au Père comme il est le Fils. Et le passage plus important est suivi maintenant. Saint Cyrille décrit cet état de sacrifice permanent comme une oblation incessante du Fils en tant que l'homme offert à son Père dans son obéissance absolue par laquelle il a restauré la nature humaine à la filiation primordiale. Je cite, « Et le Christ est devant les faces de Dieu, c'est-à-dire dans les yeux du Père. Car quand il est fait comme nous, il est entré dans le sang des saints par le temps le plus grand de manière plus parfaite, c'est-à-dire dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous, comme l'a dit, devant la face de Dieu. Car il paraît devant la face du Père, il nous fait paraître à nous aussi qui sommes en lui, nous qui ne sommes plus devant sa face et devant ses yeux à cause de la désobéissance d'Adam et du péché qui règne partout. Donc, en Christ, nous avons accueilli le rapprochement et l'audace d'entrer dans la Sainte des Saintes, comme Saint Paul a dit. » Bon, c'est une idée très, très grande. Je veux utiliser cette idée qu'on peut aller, on peut sentir Dieu si on a cet état d'obéissance. Et je veux insister, mais pas maintenant, selon la définition de le Père de l'Église. Ici, je ne peux pas passer passage du Père Stanislaus. Il a écrit un livre très beau sur la liturgie, la spiritualité et communion dans la liturgie orthodoxe. Et quelquefois, il est très lyrique, il fait des poèmes. Écoutez ça, qu'est-ce qu'il a dit? Par la divine liturgie, nous sommes appelés en permanence à la noce du Fils de Dieu. Et les dons de cette scène éternelle et impérissable sont valorisés par les sangs précieux de notre Dieu. Et pour cela que l'événement de sa vie ne représente pas pour nous un simple passé dont on se souvient, mais ils sont présents et permanents et actifs par la célébration liturgique grâce à laquelle nous les vivons à nouveau et les actualisations. Le festin du Fils des Rois n'est pas fini. Maintenant, il continue dans le ciel, tout comme sur la terre, par la Sainte Eucharistie. La noce la plus pleine d'amour entre le Fils des Rois et nous se passe toujours. Nous participons toujours au festin de cette noce. Nous avançons vers la noce et le festin absolu des royaumes à venir. Nous vivons sous l'aurore de l'eschatologie et nous préparons pour la rencontre avec le soleil tout antécédent de la journée sans fin. Alors, Ça, c'est sur la définition de la liturgie. Vous avez vu, il y a tellement de profondeur qu'on trouve très difficilement les mots pour définir cette réalité. On voit du pain et du vin, et là est Dieu. Et sur la modalité des rencontres, cette réalité est tellement profonde. Les pères de l'Église ont expliqué que cette rencontre a différentes modalités, différentes modalités de le comprendre. Et je veux analyser ici comment on peut goûter et entendre la présence de Dieu par entendre la parole, entendre l'homélie des prêtres, par les prières, par les chants, et après par la communion, et finalement par la vie d'ascèse. Donc, je ne veux pas parler sur l'histoire de la liturgie, ça c'est une autre fois que je dois faire. Alors, dès le commencement, l'Église primaire a eu la conscience de la présence invisible, mystérieuse du Christ à son culte, à elle, et la synaxe eucharistique a été perçue comme la continuation de la scène, Sainte Cène, où a lieu le mystère ineffable de la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Seigneur, la récapitulation de l'entière économie de salut en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, aussi bien que le vécu anticipé du royaume de Dieu, en tant que la participation à la liturgie de l'éternel amour de la Sainte Trinité. Cette rencontre, ça c'est la plus importante chose, c'est une rencontre avec Dieu, se passe dans l'ambiance de l'Église, au milieu spirituel de la célébration liturgique. Et ça, c'est le point que, après la résurrection et l'ascension, on ne voit pas le Christ. Ça, c'est un problème pour le christianisme, c'est la modalité de surpasser cette réalité. On ne le voit pas. Mais il est présent d'une manière tout à fait nouvelle, car le Sauveur est devenu esprit, également sur l'humanité après l'ascension et la descente du Saint-Esprit. Trouve sa demeure dans l'homme et lui inculque dans les profondeurs de l'âme une nouvelle vie en lui conférant une nouvelle existence. Et c'est celle de son humanité déifiée. Ça, c'est très important pour comprendre la liturgie. Il faut comprendre que le christianisme confère cette vie nouvelle, c'est la vie de le Christ qui est dedans de nous, qui nous aide de comprendre la liturgie. Ce n'est pas de l'extérieur qu'il faut comprendre la liturgie. La liturgie, il faut comprendre de l'intérieur de notre âme. Il faut comprendre premièrement que nous avons dedans de nous une vie nouvelle. C'est quand on va dans l'hôpital, on va faire des transfusions, on a toujours des sangs nouveaux. Et si on comprend ça, on comprend aussi la liturgie. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Alors, mais tout a lieu par le touchement de la matière visible qui devient aussi le moyen de découvrir la présence de Christ dans l'Église, vu que les choses visibles du Seigneur se sont transformées en sacrements de l'Église. Ça, c'est l'affirmation de Pape Léon le Grand. La présence corporelle du Christ dans le monde a été substituée par la présence spirituelle, par la foi et par les saints sacrements, qui d'ailleurs n'est pas plus faible par rapport à celle-là, mais plus intense encore, plus que s'effondre entièrement sur le Saint-Esprit. Ah oui. Le Christ habite en nous et nous sentons le mystère de sa présence, et désormais on les rencontre là-dedans, dit Père Dumitru Stăniloae. Il a fallu que le Fils de Dieu s'est abîmé dans la nature humaine et mourut et ressuscité, pour que nous, étant immergés dans l'eau de le baptême, puissions le recevoir intégralement en nous, mieux dit, pour que nous abîmions complètement dans sa vie divine, que nous partagions de tous les dons desquels sa nature humaine est remplie par sa passion et par sa résurrection. C'est ça que je disais, nous avons dedans de nous une vie nouvelle, mais on a quelque chose du Christ, et ce n'est pas un don qu'il nous donne, il fait un bonbon, un chocolat, non. C'est lui, et vous verrez, ça c'est très important, c'est lui avec ça qu'il sent comme homme vers Dieu, ça il nous donne. Il ne donne pas une corde qui est, ça c'est une corde énergisante, c'est une pastille qu'on prend et on se sent bien, on a beaucoup de soucis, on peut faire beaucoup de prières. Non, il est lui en état de sacrifice qui vient à nous et qui nous aide d'être dans cet état. Alors, le Christ est réellement présent dans la liturgie dès son commencement, certes de manière différente. Et cette présence devient plénière en même temps que la transformation du pain et du vin en corps du sang du Seigneur. La parole de l'Évangile et son interprétation, la prière des fidèles, la communion eucharistique et l'accomplissement des commandements et des vertus sont autant de modes de présence du Christ et de communion spirituelle à lui. Alors, je vais essayer de parler sur la communion, premièrement, la communion au Christ par sa parole dans la liturgie. La liturgie a eu de début dans son noyau l'annonce de l'Évangile, du salut comme une modalité non seulement de prédication, de l'enseignement du Christ crucifié et ressuscité, mais encore une manière par laquelle Dieu opère sur les fidèles en leur dévoilant sa volonté, en invitant à la communion avec soi-même. Il est très important d'entendre ces choses que chaque liturgie de commencement, si vous savez l'histoire de la liturgie, on a lisé l'Évangile. Mais on n'a lisé pas l'Évangile pour faire information sur le christianisme et savoir. Non, c'est Dieu qui parle. C'est ça que Perstaniloae a souligné plusieurs fois, que dans la parole de Dieu vers nous, il nous fait connaître et sentir son amour envers nous. Ça, c'est la plus importante chose. Mais il éveille aussi notre amour envers lui. Il nous connaissons sa volonté et nous exprimons notre amour envers lui. Par la prière, nous exprimons notre dépendance, notre affection avec lui, mais nous sentons aussi la réponse de son amour à elle. Par tous les deux, nous sommes entrés dans la spirale du mouvement infini ascensionnel de la communion entre nous et Dieu. Et le même père Stanislaus, il dit toujours que la parole de Dieu, c'est pas, comme vous disiez, informatrice, c'est une donne qui engage. C'est, comme vous savez, en allemand, c'est Gabe und Aufgabe. C'est une don qui attend de mettre en pratique. Non seulement elle définit un cadre de l'existence heureuse de l'homme avec Dieu, mais encore par sa connaissance et son accomplissement, elle scelle un nouveau peuple élu qui crée une communion de telle mesure que la même parole inspirée, je parle ici de l'psautier, oui, la même parole inspirée devient révélation de Dieu et à la fois louange et gratitude de part de l'homme. Bon, ça c'est le premier niveau, oui, c'est la parole de Dieu qui nous parle, qui nous engage, qui nous attire vers lui. Notre réponse, c'est la prière. La prière est aussi la réponse des fidèles à l'écoute des paroles de Dieu. Les fidèles montrent que par la bénédiction, par l'action de grâce et par la demande, ils sentent que le Christ est présent. Oui? Et la prière est la parole de Dieu assimilée à l'être des fidèles. Et une moyenne d'expérience plus vivante de la présence de l'œuvre de Christ crucifié et ressuscité. Un feu qui allume, c'est le Père Stanislaus qui dit, un feu qui allume et qui élève vers les cieux notre être en tant qu'offrande et qui devient la flamme jaillissante des chaleurs de la foi amenée dans l'âme par l'Esprit Saint à travers la parole. Bon, un autre élément, c'est l'interprétation de la parole de Dieu, c'est l'homilie du prêtre et de l'évêque qui, cette élément là plusieurs fois est très difficile d'entendre et lui sent, mais Perstaniloae a toujours souligné ce fait que les paroles du prêtre et du évêque ont un rôle mystagogique, c'est toujours d'initier dans le mystère de la présence de Dieu. Ça, chaque prêtre doit savoir que chaque homilie doit initier les hommes de comprendre la présence de Dieu, qui est difficile. C'est, on a le mot des codes du passé, on ne sait pas la parole, on n'est pas entré dans le mystère. il est significatif que dans la liturgie, il y a une croissance graduelle de la parole de Dieu jusqu'à elle devient la forme de prière la plus haute. On parle dans l'orthodoxie de la prière épiclétique. On parle de l'épiclèse, c'est l'invocation du Saint-Esprit qui engendre le plus haut degré de l'expérience de la présence de Dieu et par laquelle, suite au geste du prêtre, la grâce du Saint-Esprit descend en transformant le pain et le vin en corps et sang du Seigneur. C'est ici qu'on voit le lien indissoluble entre les paroles et les sacrements. La parole apporte le mystère, le sacrement. Et le mystère entretient la parole. Et ici, je veux citer le père Alexander Schmemann, qui a fait beaucoup de travaux sur ce sujet-là. Il dit, selon la tradition ecclésiastique orientale, c'est justement la liaison inséparable de la parole et du sacrement qui fait que l'être de l'Église se réalise comme incarnation du Verbe, comme devenir de l'inhumanation de temps et d'espace, de telle sorte qu'il est dit de l'Église même dans le livre des Actes, la parole croissait. Par l'Eucharistie, nous communions avec celui qui vient, qui demeure parmi nous dans la parole. Et la mission de l'Église consistait à l'annoncer. Le Verbe pose les sacrements en tant que son accomplissement, car le Christ, le Verbe, devient notre vie par le sacrement. Le Verbe rassemble l'Église afin de s'incarner. Séparé du Verbe, le sacrement risque d'être conçu comme une opération magique. C'est très important. On fait ça beaucoup. On fait beaucoup de sacrements sans expliquer, sans rien dire. Mais aussi privé des sacrements, la parole risque d'être une doctrine. Ça, on fait aussi. Ça, c'est très important. Et je disais, les implications pratiques de la théologie sont toujours les choses que nous devons savoir. Alors, la plus importante chose à la liturgie orthodoxe, c'est la communion eucharistique. Dans la tradition patristique orientale, la communion au corps ou du sang du Seigneur représente la raison et le but final de la liturgie. Et on a cité ici le Saint Nicolas Cabasillas qui lui dit très 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 beau, il dit que le sommet est le plus haut de la vie spirituelle auquel une fois parvenu rien ne manque plus afin d'obtenir la félicité qu'on désire, c'est le grand sacrement parce que rien ne peut se passer ni ajouter. La communion eucharistique est la source de délices. On dit ça dans la prière avant l'Eucharistie. Le feu est la lumière qui brûle les épines du péché et qui remplit du parfum de la divinité. C'est goûter au bonheur de la vie future, plonger dans la vie infinie de Dieu, c'est le Père Stanislaus, et s'abreuver d'une vie éternelle et plénière offrant de l'immortalité. Manière parfaite de la communion avec le Christ, l'Eucharistie offre aux baptisés, s'offre pour la rémission des péchés et la vie éternelle. La tradition patristique orientale souligne le fait que le corps du Christ se donne aux fidèles comme celui qui éternellement est rompu de manière spirituelle. Et ici, je veux insister sur la théologie patristique et surtout sur Saint Simeon, le nouveau théologien, qui dit que nous recevons une corps chaude, plein de sentiments d'offertes et d'oblations envers le Père. Écoutez ici ce qu'il dit Saint Simeon. La liturgie non est pas une simple anamnèse des actes de l'économie du salut, mais le goûte et la communion de l'état de sacrifice perpétuel du Christ, de son abandon total et obéissance au Père. Abandon qu'il, ayant un corps susceptible de mourir, a mené jusqu'au bout en acceptant la mort sanglante et qu'il maintienne comme un abandon spirituel et obéissance intégrale de son humanité au Père, afin qu'il soit pleinement rempli de la divinité et enfin que son abandon, sa obéissance devienne nôtre. Ça c'est très important et si vous voulez entendre cette chose, pour Sainte-Maxime, le confesseur, dans son livre Ambigua, c'est le plus important chose qu'il souligne, c'est que le Christ est venu dans ce monde pour nous apprendre l'obéissance par le faisant ça. C'est pas il a pu nous sauver de la distance, mais il est venu pour faire ça, et ça c'est très important. Dans l'Eucharistie, le Christ offre tant qu'irradiation de son état de sacrifice et de résurrection que son corps lui-même dans cet état, et ce corps vivant et plein de vie comprend aussi les sensations de son âme déifiée, lesquelles se gravent également de l'âme qui communie en lui, vu que son corps et qu'il me donne, affirme le Père Stanislaus, on ressent dans son corps, on ressent sa compassion, son amour vers moi, parce que son corps est toujours rompu spirituellement pour moi. Le corps vivant de quelqu'un est une moyenne de communication des sensations de son âme. Et pour ça, l'Eucharistie, en tant que manière plénière de communion avec le Christ, est un don qui engage, qui attend notre réponse. Le Christ, dit le Père Stanislaus, se offre perpétuellement sacrifice au Père pour que nous, mais point de façon juridique, attendu qu'il nous ouvre la voie vers le Père, c'est juste pour cette raison-là qu'il se met à notre disposition dans l'Eucharistie, pour qu'il nous offre aussi au Père en même temps avec lui. C'est-à-dire, le Christ, il s'offre au Père, mais il nous offre aussi, nous, avec lui. Bon. Bon, je veux... bon. C'est le fin, c'est une chose qui... il faut souligner, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon. La dernière façon qu'on peut goûter cette vie nouvelle, c'est la communion spirituelle. C'est, j'ai essayé de trouver un mot en français pour expliquer ces choses-là. La communion spirituelle, c'est la réponse de chaque chrétienne à l'amour de Dieu. Et cette réponse, il y a deux termes en grec qui... décrit la vie spirituelle, c'est mystikos et energos. On reçoit le pouvoir du Christ, mystikos, c'est-à-dire sur le Saint-Sacrement, sur l'Eucharistie, mais energos, on peut mettre en pratique observant les commandements et les vertus. Ça, c'est la plus importante chose qui et je veux citer ça. Ce qui s'est passé de manière mystérieuse, mystikos, dans le sacrement de Saint-Baptême et l'Eucharistie, lorsque le chrétien est mort et ressuscité par imitation de la mort et de Christ, se continue ensuite energos par la pratique des Saints Commandements dans la vie chrétienne de nouveau baptisé, comme une perpétuelle résurrection avec le Christ. C'est lors du sacrement de l'Eucharistie que les fidèles reçoivent la nourriture, le soutien de leur effort ascétique, de sorte que la communion sacramentale engendre une communion spirituelle au Christ par ascèse, observance de les Saints Commandements, et cet effort ascétique imprègne en eux l'état de sacrifice, la disponibilité et obéissance totale à Dieu, lequel les aide à s'approcher de nouveau avec foi et amour de la Sainte Eucharistie. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Oui, oui, ça marche. Voilà. On va peut-être prendre juste 2 minutes pour s'étirer. Et est-ce que je pourrais demander de terminer?